Change mon cœur, Seigneur.
Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1 à 3. Bonjour à toi mon ami et merci de nous avoir rejoints pour cette méditation quotidienne. Nous continuerons la lecture de « Vivre au temps de la fin » de Mark Finlay. Qu'est-ce que la seconde venue de Jésus, sinon une source d'espoir pour les cœurs troublés? Jésus reviendra bientôt. En es-tu conscient? En es-tu persuadé? Bientôt, les déchirures et les amertumes de la vie prendront fin. Il y a peut-être beaucoup de choses que nous aimerions savoir concernant l'avenir, n'est-ce pas? Il existe même probablement bien des éléments prophétiques que nous aimerions mieux maîtriser et pouvoir expliquer. Mais il y a un aspect bien plus important que les détails de la prophétie. En connaître la fin, la conclusion vers laquelle elle s'achemine. Cela s'avère primordial au-delà des détails qu'on cherche à comprendre. Cette quintessence se démarque de toutes les pièces du puzzle. Des millions de personnes tentent de sonder la prophétie tout en négligeant son apogée. Ils ont les yeux rivés sur ce que fait le diable et non sur ce que fera le Christ. Pourtant, toutes les prophéties désignent Jésus. Il est le point culminant, le point central. L'histoire ne consiste pas à un cycle incessant d'événements. Toute l'histoire avance vers un dénouement suprême. Le retour de Jésus. Deux livres de la Bible, Daniel dans l'Ancien Testament et l'Apocalypse dans le Nouveau, se focalisent particulièrement sur l'apogée de l'histoire. Les anciens prophètes bibliques inspirent du courage à notre génération. Ils ne fixent pas leur regard sur les désastres, mais sur la délivrance. Ils ne placent pas l'accent sur la venue d'une catastrophe, mais sur la venue du Christ. Ils ne décrivent pas une fin tragique, mais un commencement glorieux. Les auteurs de Daniel et de l'Apocalypse présentent un monde nouveau, un monde meilleur. Il serait bon peut-être aujourd'hui de nous focaliser sur cela. Il nous aide à tendre le bras pour toucher le royaume de Dieu. Il nous offre des aperçus de l'éternité. Il nous aide à voir l'essentiel. Alors, faisons ensemble une brève visite dans Daniel et l'Apocalypse et essayons de saisir l'inspiration de ces livres pleins d'espoir. En 605 avant Jésus-Christ, le roi babylonien Nebuchadnezzar attaqua et vainquit Jérusalem. Il prit avec lui un nombre important de jeunes captifs hébreux. L'un d'eux s'appelait Daniel. Jean, auteur de l'Apocalypse, lui, se retrouva lui aussi en captivité dans une terre étrangère. Dernier disciple encore en vie, il fut exilé par les Romains sur l'île de Patmos, au large des côtes de l'Asie mineure. Daniel et Jean avaient soif de délivrance. Ils attendaient le jour où le péché et la souffrance prendraient fin, un jour où les conflits et le chaos n'existeraient pas. Ils espéraient un lendemain brillant où la maladie, les désastres, les dévastations, la destruction et la mort s'estomperaient devant la gloire d'un monde nouveau. Dieu honora la fidélité de ces hommes courageux en leur dévoilant la quintessence de la prophétie. Te rappelles-tu du songe de Nebuchadnezzar dans Daniel 2, verset 1? Des rêves bizarres, on en fait tous, n'est-ce pas? T'es-tu déjà demandé pourquoi le roi s'est autant inquiété de la signification de ce rêve. Le roi savait que son rêve revêtait une signification spéciale et il ne se souvenait pas de son contenu. Il convoqua donc Daniel et au fur et à mesure de l'explication de Daniel, le fameux songe révèle un Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Il révèle ce qui est profond et caché, puisque la sagesse et la force lui appartiennent. Non seulement connaît-il l'avenir, mais il en est l'architecte. Non, les prophéties bibliques ne spéculent pas au sujet du futur. Ils ne font pas de conjectures sur ce qui pourrait arriver. Mais à travers les Écritures, ils nous révèlent ce que Dieu leur a dévoilé. Daniel expliqua clairement au roi Nebuchadnezzar ce qu'il avait rêvé. En l'occurrence, il lui décrivit une statue ayant la tête en or, la poitrine et les bras en argent, un ventre et des cuisses de bronze et des jambes de fer, des pieds de fer et d'argile. Voir versets 31 à 33. À l'apogée du songe, le roi vit une pierre massive détruire la statue et devenir une grande montagne qui remplit toute la terre. Imaginez l'étonnement du roi quand Daniel lui raconta les infimes détails de son rêve. Nebuchadnezzar lui demanda probablement alors « Que signifie tout cela ?» L'explication du prophète fut aussi précise que la description qu'il avait faite au roi. Il débuta en ces termes « C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. » Selon l'interprétation divine accordée à Daniel, le rêve dépeint la naissance et la chute des nations. Chaque métal représente un empire. Daniel identifie le royaume de Babylone en disant « Nebuchadnezzar, c'est toi qui es la tête d'or. » L'empire babylonien régna sur le Moyen-Orient entre 605 et 539 avant Jésus-Christ. Dans Daniel 5, versets 26 et 28, il est écrit « Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Il n'y a pas moyen de spéculer. Babylone a cédé sa place à l'empire médo-persan. La Bible comme l'histoire attestent cela. Le fameux cylindre de Cyrus conservé au British Museum rapporte l'attaque de Cyrus le Perse contre Babylone. Les Mèdes et les Perses régnèrent de 539 à 581 avant Jésus-Christ. Et puis il y eut un troisième empire, la Grèce, qui conquit les Mèdes et les Perses. Une fois encore, la Bible s'accorde avec l'histoire sur ce point. Les Grecs régnèrent de 331 à 168 avant Jésus-Christ, date à laquelle la monarchie de fer, le quatrième royaume, les Romains, les vainquit. Jésus vint au monde pendant le règne de César. À la fin de sa vie, un gouverneur romain le condamna et des soldats romains le crucifièrent. Rome régna de 168 avant Jésus-Christ à environ 351 après Jésus-Christ. Te rappelles-tu maintenant de la cinquième partie de la statue? S'agissait-il d'un cinquième royaume? Certainement pas. Par contre, des tribus germaniques venues du nord conquirent Rome. Écoutons les paroles frappantes de la prophétie. Daniel 2, verset 41 nous dit « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Beaucoup de chefs militaires essayèrent de régner, comme l'avait fait la Grèce, la Rome avant eux. Charles V, Napoléon, Guillaume II, Hitler, Mussolini, Staline et en passe, ils ont tous tenté d'unir l'Europe par des mariages et des conquêtes politiques. Mais les pays indépendants de l'Europe révèlent avec éloquence un Dieu qui est aux commandes, un Dieu qui dirige la destinée des nations. Au ce matin, mon ami, l'idée n'était pas de faire un cours d'histoire, mais de montrer à quel point la prophétie et donc la Bible ne ment pas quant aux événements qu'elle annonce. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter au pied de fer et d'argile, car la prophétie atteint une apogée grandiose au verset 44 de Daniel 2, et c'est là le point central de cette méditation d'aujourd'hui. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Amen. Selon cette prophétie, l'événement marquant qui suit n'est autre que la venue de Jésus-Christ, le rocher des âges, le rocher qui se détache sans le secours d'aucune main, instaurera son royaume sans fin. Les royaumes de la terre sont temporaires, mais celui de Jésus est éternel. Les prophéties des livres de Daniel et de l'Apocalypse projettent à l'horizon un dénouement glorieux, le retour du Seigneur Jésus. Mon ami, aussi vrai que les prophéties se sont réalisées, que les royaumes se sont succédés, oh, j'ai l'intime conviction que la prophétie arrivera à son terme et que le royaume de Dieu approche et il est là, à la porte. Quelle espérance, quelle destinée, quelle description lumineuse de l'avenir. En dépit de nos souffrances, de nos chagrins, de nos larmes, et je suis convaincu qu'au moment où nous parlons, peut-être que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas, qui te tracasse, qui te chagrine, qui te ronge. Mais Jésus reviendra. En dépit des désastres qui accompagnent nos tribulations, Jésus reviendra. Il ne reviendra pas secrètement ou silencieusement. Il viendra comme le roi des rois, Seigneur des seigneurs, puissant vainqueur. Il vaincra pour régner éternellement et le monde entier le saura. Amen. Oh, ce matin, je t'invite à prier ensemble afin que Dieu, par son esprit, puisse nous convaincre de ces choses et que nous puissions rester dans l'attente de ce jour merveilleux. Prions ensemble. Bon Père, quelle espérance et quel bonheur de pouvoir retrouver, relire et apprendre et réapprendre ces sujets fondamentaux. Quel bonheur de voir que des années avant que cela n'arrive, tu avais déjà montré l'histoire de ce monde dans les prophéties. Tu avais montré, Père, cette succession de royaumes. Mais plus important que la succession, tu avais montré la finalité de tout cela. Ô Père, tu n'es pas un Dieu pour mentir. Et s'il y a une prophétie qui révèle clairement ta puissance, qui révèle clairement que tu es le roi des rois et que ton esprit a inspiré des prophètes, c'est celle-là. Ô Père, quel privilège d'être à l'écoute de ton esprit. Quel privilège d'entendre, Père, et de comprendre que tu as tout prévu à l'avance, que tu as un plan pour nous et que tu reviendras afin de mettre fin à cette souffrance, de mettre fin à cette vie difficile et compliquée, mettre fin, Seigneur, aux pleurs, aux larmes, aux maladies, aux dépressions, aux suicides, à la mort. Mettre fin, Père, à toutes ces choses horribles que nous côtoyons jour après jour. Et plus nous regardons, et plus nous entendons, et plus nous voyons à quel point l'homme est capable de choses toujours plus mauvaises. Papa, merci pour cette espérance qui nous fait du bien. Qu'elle puisse nous porter aujourd'hui, qu'elle puisse nous permette de cheminer avec toi. Et qu'elle puisse nous permettre, Père, de lever les yeux en haut, car tu n'es pas loin. Nous en avons l'intime conviction. Aide-nous, Père, à marcher en nouveauté de vie avec toi. Aide-nous, Père, à arrêter, Seigneur, de perdre du temps et de l'énergie dans des sujets ou des controverses ou des discussions. Mais aide-nous, Père, à nous focaliser sur l'essentiel. Merci, Père, pour cela. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit magnifié et que ton règne vienne aujourd'hui et à jamais. Nous te prions, non pas que nous soyons dignes, mais c'est par le doux nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.
C'était votre méditation « Change mon cœur, Seigneur » tous les jours à 8h30 et 19h et disponible